Bonjour à tous. C'est avec joie que on se retrouve à nouveau avec vous. Je veux vous dire merci pour tout votre accompagnement, tous les témoignages qu'on a reçus par rapport au décès de ma belle-mère. Toutes les prières qui ont eu leur effet, gloire à Dieu, avant, et puis le témoignage qui a pu être rendu. Merci du fond du cœur. C'est vrai que j'aime le corps et l'Église, quand elle est en place, elle se soutient. Et merci à chacun et chacune. Voilà. Donc, ce que Dieu a mis sur mon cœur, ça fait déjà un petit moment. Et donc, je l'ai repris. Bien sûr, ça me parle à moi beaucoup, qui suis un homme de la terre. Et donc, c'est sensible ou endurci, et donc à recevoir les paroles de Dieu. Et je pense qu'on a tous à cœur d'avoir cette sensibilité à ce que le Seigneur, quand il parle, reçoive cette parole et qu'elle produise du fruit en abondance. Et pour cela, on va lire, donc Robert va lire Marc 4, parce que le passage est assez long. Et donc du verset 1 au verset 25.
Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement : Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit : Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Il leur dit encore : Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore : Apportons-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on ne jugera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. »
Amen. Ces deux passages qui sont associés et qui pour moi sont inséparables. Et vous avez sûrement entendu plusieurs messages sur cette parabole du semeur. Et ce qui a touché mon cœur, parce qu'en fait je peux le vivre, c'est qu'à certains moments, la parole n'est plus entendue. Vous savez, c'est comme en écoutant une chaîne d'infos ou les infos le matin, on écoute en prenant le petit déjeuner, puis au final on n'a rien retenu des nouvelles qui ont été annoncées. Et quand la parole est dite sur un cœur qui est fermé, elle ne produit rien. Et mon désir, c'est que ce ne soit pas ainsi, mais que cette parole vivante, elle produise son effet. Et la volonté de Dieu, c'est que, comme il est dit au verset 22, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté. » Son désir, c'est que cette parole vivante, elle produise du fruit. Et donc il est dit à deux reprises, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et je crois que le Seigneur nous a donné des oreilles, nous en a même donné deux. La traduction dans Parole vivante nous dit que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Et donc le Seigneur nous a donné cette capacité à recevoir sa parole. Donc ne fermons pas le livre et au contraire, soyons en recherche quand nous lisons la parole. « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire ? J'ai besoin de ta vie, Seigneur. J'ai besoin de ta parole, Seigneur. » Et donc, le Seigneur a ouvert notre cœur, a mis, lors de la nouvelle naissance, son esprit en nous. Et son esprit parle à notre esprit. Qu'il en soit ainsi. Et nous vivrons, je crois, nous dépasserons nos propres pensées, nos propres limites, parce que le Seigneur pourra agir. Et prions souvent que le Seigneur améliore notre sensibilité à son esprit. Et le verset 12, par exemple, je vais le reprendre rapidement, où il est dit, ce sont des paroles dures, qui dit, « Afin que tout en regardant bien, quand le Seigneur parle, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne leur soient pardonnés. » Alors Seigneur, mais je ne comprends pas, pourquoi ta parole ne serait pas entendue? Et je retrouvais à travers ma lecture dans Exode, au moment où Dieu parle à Moïse du comportement de Pharaon. Et il lui disait dans Exode 3, verset 19, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'aller, pas même sous l'emprise d'une main puissante. » C'était la première fois que Dieu parlait à Moïse pour annoncer ce qui allait se produire lorsque les Hébreux sortiraient de l'esclavage, sortiraient d'Égypte. Et le Seigneur savait ce qui allait se passer. Et donc pour nous, qu'il n'en soit pas ainsi, de fermer nos oreilles, donc qu'on n'ait pas cette écoute passive, comme un cœur qui serait blindé, ne ressemblant plus la vie éternelle. Alors, dans la parabole du semeur, on a trois acteurs, enfin en tout cas, trois intervenants possibles. Bien sûr, il y a le semeur, qui est Dieu, qui est parfait en toutes choses. Et donc, le semeur, forcément, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement son rôle, sa fonction de semeur. Et il a toutes les compétences pour bien réussir le semis. Amen ? Bon. Première chose, si vous êtes déjà d'accord avec moi, on va pouvoir avancer. Parce que si vous n'étiez pas d'accord avec ça, bon, ça aurait été difficile. Et il y a ce moment où la semence, elle est jetée dans le chemin. Est-ce que ce serait une erreur ? Alors, je me suis rappelé, quand j'étais enfant, qu'il n'y avait pas des semoirs forcément pour semer tout. Et donc, j'ai vu mon grand-père, mon père, ils semaient à la volée. Donc, ils avaient leur corbeille, ils semaient comme ça. Donc, si le geste était un petit peu trop fort, ou si le vent portait une semence légère, la semence se retrouvait sur le chemin. Donc, le Seigneur nous parle de cette histoire de chemin eh ben, qui reçoit une graine, qui c'est pas le lieu, mais on va en reparler tout à l'heure. La deuxième chose, c'est la semence. Et la semence de Dieu, c'est une semence parfaite. Elle aussi, qui a un taux de germination de 100%. Je vous ai photographié un sachet de semences que j'avais, ce sont des semences de carottes. Le taux de germination n'était que de 70%. Et donc à une date précise, au 15 décembre 2016. Donc ça va un petit peu en diminuant. Donc c'est une semence artisanale, hein, donc elle n'a pas une capacité à germer. Donc déjà, si vous dites, bon, peut-être qu'elle a encore baissé de 60%, de 10%, donc elle ne peut germer qu'à 60%. Et puis troisième volet, on va parler de la terre. Et si la terre est difficile, alors là. Donc, et je reviens. Donc la semence qui est la parole de Dieu, efficace à 100%. J'attends un autre amen. Amen. Ouh. Donc on va pouvoir avancer. Et donc, bien sûr, dans Ésaïe 55, on va relire tout à l'heure, au verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Si c'est une semence de carottes, c'est des carottes qui vont pousser. Si c'est du maïs, c'est du maïs. Et la semence que Dieu nous envoie, elle est parfaitement adaptée à notre situation, jour après jour. Et donc, le troisième élément, troisième acteur, c'est la terre. Et c'est merveilleux de voir à la fois comment les choses dans lesquelles on travaille et puis et comment le Seigneur connaît toutes choses, quoi. Dit Seigneur, tu connaissais déjà tout ça, il n'y a pas de souci. Les sciences de la terre, la phytotechnie, tu connaissais ça parfaitement. Et il n'y a pas d'effet de mode sur la vérité de Dieu. Celle qui est vraie, elle est vraie, indéfiniment. Et la terre, elle peut être vivante ou stérile. Elle peut être régénérée, améliorée, ou au contraire, elle peut être vraiment très diminuée dans ses facultés à donner la vie, à comme engendrer, en tout cas, ce qui est nécessaire à un germe pour qu'il puisse grandir. Et bien sûr, cette terre, elle nous ressemble. Nous sommes formés, le Seigneur, Robert a lu dans Genèse tout à l'heure, mais au commencement, le Seigneur, c'est avec de la terre qu'il nous a formés. Et c'est un souffle de Dieu qui nous a donné la vie. Mais nous sommes des éléments, nous sommes des personnes qui sortent de la terre. Et donc, pour un agriculteur, pour un jardinier, la terre est ce qu'il y a de plus important. Il peut connaître toutes les techniques pour bien planter, pour bien arroser, pour bien associer les cultures. Si sa terre est mauvaise, le résultat sera vraiment médiocre. Et on a oublié tout un temps, parce qu'en fait, c'est le temps l'agriculture que j'espère qu'on quitte, qui était basée sur beaucoup d'apports, donc en chimie, mais aussi en mécanique, qui était important à ce moment-là, enfin, qui était nécessaire pour que, à la sortie de la guerre, notre pays puisse être nourri. Mais on est allé trop loin. On n'a pas respecté cette terre qui est vivante. Et comme nous sommes vivants, vous pouvez regarder cette terre. Elle n'est pas inerte, elle est vivante. Il y a de la vie dedans. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on continue de trouver des choses vivantes, comme tout ce qui est le rôle des champignons dans la terre, pour apporter de la fertilité, de la vie à cette terre. Donc si vous voyez une motte de terre, ne dites pas « ça c'est mort ». Non, il y a de la vie là-dedans. Donc on va lire tout Ésaïe 55. Et c'est l'annonce que Ésaïe fait de la part de Dieu, du Seigneur qui va venir, du salut qui va venir pour les hommes. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et mangez, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Alléluia. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur commandant les peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne ta splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Amen. Et bien sûr, le résultat chez l'auditeur quand il entend ça, c'est soit de l'accueillir avec joie, ou soit de la refuser. Soit que ça produise une sécheresse, ou soit que ces semences produisent de l'abondance. Parce que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Si vous vous promenez dans la nature, à l'époque où on a toutes les récoltes, on va dire, de l'automne, il y a des milliers de fruits qui sont par terre. Donc le Seigneur donne en abondance. Mais la semence ne peut pas germer et se développer toute seule. Elle a besoin d'un environnement favorable. C'est cette terre. C'est une parole vivante et révélée à nos cœurs. Et l'accompagnement vraiment surnaturel de Dieu pour confirmer cette parole, pour l'écrire, pour nous convaincre qu'elle est vraie, qu'elle est vivante, qu'elle va nous donner la vie. Et Ésaïe 55 propose plusieurs choix. C'est vrai, choisissez une bonne semence qui va nourrir. Et elle est gratuite. Écoutez-moi. Et donc, mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Et en fait, en acceptant cette bonne semence, on accepte aussi une méthode de culture. on accepte le conseil du jardinier divin de nous dire comment améliorer cette terre, mais comment semer. Et tout le conseil de Dieu, il accompagne cette parole. La parole toute seule, c'est vrai qu'on peut la lire. Bon, c'est régulièrement qu'on entend. J'ai lu la parole, j'ai lu la Bible, parce que pour eux, ça n'est pas encore la parole de Dieu dans bien des cas, et j'ai eu beaucoup de mal. En fait, quelquefois, les gens se disent, c'est important que je lise ce livre. Et on a rencontré plusieurs personnes comme ça. Dans certains cas, ça a été bien plus loin, alléluia. Mais il y a une difficulté quand ils lisent ce livre comme un livre ordinaire. Et quelqu'un, il y a 2 semaines, me disait, oui, je l'ai lu. Et donc c'est quelqu'un qui est avocat. Et il me dit, c'est vraiment plus dur que le code civil. Hein. Alors pour moi, le code civil, c'est impossible à lire quasiment. Mais la Bible, ce n'est pas la même situation. Et donc, nous avons besoin du jardinier divin pour lire, pour faire vivre cette parole. Et j'aime cet avertissement aussi qui est donné dans Proverbe 26 au verset 12. Parce qu'on peut dire, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai besoin de rien, je me suffis à moi-même. Et ce proverbe nous dit, si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Pour quelqu'un qui a perdu ses sens, il n'y a plus d'espérance que pour cet homme ou cette femme qui se pense suffisamment sage pour réfléchir tout seul. Et donc le risque pour tout homme, c'est d'entendre la parole de Dieu et au contraire de la recevoir, c'est d'endurcir son cœur. Que ce ne soit jamais le cas pour nous, mais que jour après jour, le Seigneur rende plus sensible ce cœur, plus perméable. Alors, nous allons continuer de parler de la terre. Ah non, c'est... Où j'en suis, là ? Oui, ok. Et la terre, oui, sans l'intervention de l'homme, elle a toujours évolué. Et elle n'a pas besoin d'un jardinier. C'est là où on voit que c'est une création de Dieu. Elle n'a pas besoin des mains de l'homme pour être une terre riche. Si vous voyez la forêt, le sol d'une forêt, il est naturellement très riche. Et il n'y a pas de jardinier dans une forêt. Elle se suffit à elle-même. Et j'ai trouvé une définition, alors là... qui était, je crois, sur le site du ministère de l'Agriculture, qui parlait de la définition du sol, donc de cette terre cultivable. Le sol est la partie superficielle de l'écorce terrestre, résultant de l'altération de la roche-mère, donc de la pierre qui constitue cette terre, sous l'action du climat et des organismes vivants. Tiens, c'est vivant, même dans la pierre, il y a quelque chose qui va se passer. La formation des sols résulte d'une évolution lente, pouvant aller jusqu'à des centaines de millénaires. Support physique des cultures, un sol fertile doit avoir une structure et une profondeur qui permettent aux plantes de développer leurs racines pour s'ancrer, retenir l'humidité et évacuer l'eau en excès. Et bien sûr, si on observe attentivement ce qui se passe sous nos yeux, enfin, on sait, par exemple, la Bretagne, c'est un massif granitique qui a évolué pour donner de l'argile. Et l'argile devient cultivable. Alors, c'est une terre qui peut être difficile, j'en suis témoin, mais ça donne quand même un sol, au bout de plusieurs millénaires, qui devient cultivable et qui continue de s'améliorer. Et Dieu est aussi le créateur du cœur des hommes. Il veut le nourrir et l'enrichir. Si Dieu a fait ça pour sa création, pour ce sol, pour une pierre qu'il a contribué à dégrader petit à petit pour qu'elle devienne un support de culture, un support pour la vie des hommes et des femmes. À plus forte raison, notre cœur l'intéresse. Romains 1, 17, et donc là c'est la version parole vivante. Et voilà ce que cet évangile nous révèle. Dieu nous déclare juste si nous plaçons notre confiance en lui. Et nous apprenons comment cette justice que Dieu nous attribue naît de la foi et la fait grandir. Ainsi qu'il est écrit dans l'Ancienne Alliance, celui qui place sa confiance en Dieu sera déclaré juste devant lui. Et sa foi sera pour lui source de vie. Amen. La dépendance à Dieu, l'association de notre cœur avec le cœur de Dieu. Le juste vivra par la foi. Et notre vie, c'est celle-là, devenue juste et vivant par la foi. Et c'est le processus de vie de Dieu, de mettre en nous la foi, de la développer, de la conforter, de l'assurer, de nous faire avancer. Et c'est cette foi qui nous fait avancer. Et la foi nourrit la foi, comme la vie procure la vie. Là où il y a la vie, nécessairement, une autre vie peut prendre cours. Ça peut ensemencer d'autres vies dans un lieu de terrain où il y a la vie, une diversité de vie. Tout cet espace, ça peut faire 5000 mètres carrés, ça peut faire un hectare, un espace où il y a la diversité de la vie, ça procure, ça multiplie la vie autour. Et nous, en tant que témoins, nous sommes comme ça aussi. La vie que Dieu a mis en nous, elle est forcément contagieuse. Et de se rappeler aussi, ce qui va fortifier notre foi, de nous rappeler à maintes et maintes reprises combien Jésus est fidèle. Quand nous voyons son passage sur cette terre, son obéissance au Père, à toute la volonté de Dieu, point après point, et son obéissance jusqu'à la mort, et ensuite sa fidélité à nous donner, nous qui recevons sa grâce, tout ce qu'il nous a promis, de vivre en communion avec lui. Et c'est de se souvenir de la fidélité de Dieu, ça encourage la foi, ça fortifie cette terre, ça la nourrit. Et alors, ce qui peut endurcir cette terre ou notre cœur, c'est qu'il donne la vie. Donc, j'ai trouvé quelques similitudes entre la terre et notre cœur. Et une terre, nous avons l'occasion de le voir, peut être abîmée par des pluies violentes. J'ai vu, quand j'étais agriculteur, j'ai vu aussi avec quand mon père l'était, des orages violents balayer tout un semis de maïs et l'amener sur la route. Quoi. Des orages, comme nous avons vu, il y en a eu dans notre département. Et des pluies violentes peuvent ravager une terre, à la fois enlever les semences, mais aussi faire que des sols argileux, notamment, deviennent comme du béton. Ils deviennent très durs. Et qu'est-ce que serait cette pluie violente? Et pour moi, ça peut être des paroles dures. Ça pourrait être des paroles dures. Des versets qui seraient sortis de leur contexte. Nous n'avons pas forcément à répondre toujours avec un verset. Sinon avec un verset qui vient de Dieu, qui est inspiré du Seigneur. Donc avec vraiment des paroles mal inspirées, ça peut être des paroles blessantes et qui ravagent cette terre, qui la balayent. Ensuite, il y a ne pas respecter la vie du sol. Donc cette vie qui est à l'intérieur d'un cœur, cette vie qui est à l'intérieur d'un sol, ne pas la respecter. Et souvent, ce que le Seigneur nous demande, c'est seulement d'avoir une oreille pour quelqu'un. Une écoute, une attention, une compassion. Il n'y a pas forcément besoin de paroles. Mais quelqu'un pourra dire, j'ai été écouté. Et c'est le premier pas souvent. On m'a écouté. Parce qu'on a respecté ce cœur, on a respecté cette vie. Et donc, je reprends l'exemple du chemin. Donc à gauche et à droite, il y a des cultures, mais au milieu, il y a un chemin. Ce qui est certain, c'est que le sol, il est de la même nature à droite, au milieu et à gauche. C'est de la même nature. Mais seulement, au milieu, il y a un chemin sur lequel on a passé, on l'a tassé. Il est devenu comme du béton. Et rien ne peut pousser dessus. Sinon, quelques plantes sauvages qui sont au milieu, parce que là, ce n'est pas tassé. Et quand le Seigneur prenait cet exemple-là, c'est vrai qu'une terre endurcie ne peut pas donner la vie. Et on a à reconnaître aussi le plan de Dieu dans les gens qui sont autour de nous, nos bien-aimés, tout proches, ceux qui sont un petit peu plus loin, nos frères et sœurs, ceux tout simplement que le Seigneur nous envoie. Et à reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans cette vie, quoi. Sans arriver quelquefois avec nos gros sabots, avec nos certitudes, mais avec l'écoute, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans cette vie ? Et c'est ça, connaître aussi la vie du sol, c'est qu'un cœur, il est vivant, il a une aspiration à la vérité, et il est important d'écouter, de reconnaître qu'il y a déjà une vie. Et que ce chemin-là, un jour, il peut être à nouveau travaillé, et la terre peut retrouver une fertilité, une fécondité. Alors, il y a quelque temps, je me souviens plus si c'était dans une discussion, dans un livre, où il y a quelqu'un qui parlait de ce qu'il avait reçu de la part de Dieu, et ça avait vraiment fait écho dans mon cœur, par rapport au cœur des enfants, et notamment au cœur des enfants qui viennent dans une assemblée, qui viennent dans une église. Et cet homme-là disait, le cœur des enfants, au départ, c'est une terre bien préparée. C'est une terre bien préparée. Mais cette terre, elle a été piétinée. Certains, et donc forcément donc, parmi les adultes, n'ont pas eu le témoignage qu'ils auraient dû avoir. Des paroles dures ont été données, des comportements mauvais ont eu lieu. Et cette terre, elle a été tassée, endurcie. Et cette terre qui devait donner une vie favorable, à un moment donné, elle ne reçoit plus non plus la parole. Alors c'est vrai, elle a regardé aux hommes, elle n'a pas regardé à Dieu. Mais c'est aussi notre responsabilité de regarder aux plus faibles, nos enfants, mais aussi à d'autres personnes, et d'écouter les intentions de Dieu et ne pas piétiner, ne pas endurcir les cœurs, qui peut-être déjà sont trop endurcis. Alors ensuite, on a une terre contaminée, un sol pollué. Et on sait que dans les villes, il y a des jardins qui se font de plus en plus, et c'est, moi je trouve ça merveilleux, que les gens mettent les mains dans la terre, parce qu'il y a, pour moi, il n'y a rien de plus équilibrant que de revenir à des choses toutes simples. Et on leur donne des terrains qui ont été souillés. Ils ne le savent pas forcément au départ, mais dans ce terrain-là, bah, il est difficile de faire pousser quelque chose parce que le terrain a été souillé, il a été contaminé. Ça pouvait être occupé par une usine auparavant qui n'a pas respecté le terrain. En tout cas, le terrain n'a pas été remis dans son état initial. Quelquefois, c'est aussi très difficile. Donc là, c'est une décharge. C'est sûr qu'un jour, quand cette décharge sera évacuée, en dessous, il y a des zones de terrain qui seront complètement stériles. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que même à travers des terrains stériles, qui ont été contaminées. Il y a des plantes qui peuvent se réinstaller. Et à partir du moment où il y a une plante, plusieurs plantes de différentes variétés qui peuvent s'installer, la vie redevient possible. Parce que ce sont des plantes qui arrivent en premier, qui sont des précurseurs de la vie, mais qui vont donner une possibilité à une autre génération de venir, différente, et le cycle va se remettre en route pour que la terre redevienne fertile. Mais quand nous sommes venus au Seigneur, nous devons bien avouer que notre sol, notre terre, elle était contaminée. Et qu'encore, elle peut recevoir des pollutions qui viennent de l'extérieur. C'est ce qui nous est dit donc à Marc 4 et versets 18-19. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et pour terminer, avec cette terre, il y a aussi donc des sols qui sont trop durs, des sols bétonnés, à l'inverse d'être des sols souples et aérés. On reconnaît une bonne terre à ce qu'elle ressemble à une sorte de semoule. Elle est très aérée. Et j'ai l'occasion, par mon nouveau travail, là, d'aller sur des terrains qui sont différents. Et il y a une dame, notamment, qui m'a demandé de venir bêcher son jardin. Et la différence de niveau entre ses allées sur les côtés et sa terre, il y a 20-30 cm. C'est-à-dire que cette terre s'est enrichie. Ça fait 40 ans qu'elle est là. Et je disais, mais ça vaut à peine le coup hein, que je travaille votre terre parce qu'elle est vraiment aérée. Vous donnez un coup de griffe, c'est reparti, quoi. Ah oui, non, mais si, il fallait le faire. Mais j'ai eu aucun mal à travailler cette terre. Alors que moi, dans mon jardin, qui est un ancien verger, qui est de l'argile à plus de 70%, je peux vous dire que je sue. Je transpire pour la retourner, cette terre. Parce qu'elle est dure. Et puis, il y avait mon voisin. J'ai contaminé quelqu'un. J'ai contaminé mon voisin. Il n'aimait pas le jardinage. Ça lui a redonné goût à jardiner. Puis un jour, il me dit, tiens, viens voir mon jardin. Non, mais ça ne pousse pas. Hein. C'est du béton. Et puis, il montre le truc. Ah ben, j'ai dit oui, c'est du béton. Ça avait été arrosé et c'était damé. Et forcément, il n'y avait rien qui pouvait pousser. Il avait initié son petit-fils aussi à jardiner. Le petit-fils, il avait arrosé. Et puis, c'était vraiment très dur, quoi. Et puis, bon, ben, on reparle de ces choses. Et puis, j'ai dit, mais elle a besoin d'être nourrie, cette terre. Et puis, en fait, il m'avait donné, l'hiver dernier, la possibilité d'accéder à son tas de terreau. Il avait depuis des années, il mettait toujours sa pelouse au même endroit. Puis un jour, je ne sais plus, on parlait. Il me dit, j'ai le tas là. Et puis moi, je me suis servi. Donc ça a aidé à fertiliser mon terrain, qui lui n'est pas complètement asphyxié. Bon, vous suivez quand même. Moi, je suis asphyxié, mais pas vous. Et donc après, il a fait la même chose, quoi. Mais les sols qui sont sans circulation d'air, qui ne sont pas poreux, une racine ne peut pas descendre. Alors, il y en a quelques-unes. Et c'est justement le rôle de ces plantes qu'on dit sauvages. Ce ne sont pas des mauvaises herbes, ce sont des plantes sauvages, tout simplement. Elles ont une fonction, c'est aussi quelquefois de planter des racines en profondeur pour aérer le sol. Et oui, ce qui endurcit souvent notre terre, notre cœur. Donc, mon verger, il n'a pas été travaillé, je ne sais pas depuis combien de temps. Bien sûr, il y a des pommiers, il y a des magnifiques pommes, mais pour faire un jardin, c'est autre chose. Il n'a pas été travaillé. Et ce qui endurcit la terre de nos cœurs, c'est que Dieu n'a plus le droit de travailler. Il n'a plus le droit de travailler cette terre. Donc laissons la possibilité au Seigneur de venir travailler notre terre. Et Hébreux 3, versets 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et souvent, bon, ça c'est ce qui peut nous arriver. Aujourd'hui, maintenant, ça veut dire, allons-y, le Seigneur a parlé, allons-y. Intérieurement, nous savons que nous devons agir ou parler, faire quelque chose qui est bon, agréable et parfait, parce que ça vient de Dieu. Mais nous nous mettons à raisonner, à réfléchir, et nous décidons tout seuls. Puis nous disons, oh, demain ce sera plus facile. Et puis alors il ne se passe rien. Parce que nous n'avons pas obéi tout simplement à ce que nous demandait le Seigneur. Et Murray disait que rien n'endurcit le cœur comme d'ajourner l'obéissance. Retenez cette petite phrase. Rien n'endurcit le cœur comme d'ajourner l'obéissance, de la reporter. Alors que vous savez que quand vous avez entendu quelque chose, que vous suivez cette attention de Dieu, ça produit du fruit, ça produit la vie et ça vous encourage. Retrouvez notre sensibilité spirituelle. Au psaume 139, verset 23, David disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. David était pour Dieu un homme selon son cœur. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est perméable. Et si nous venons dans nos rendez-vous divins, le matin, chez nous, le soir, peu importe, au pied du Seigneur, si nous venons à une réunion d'église, quelle est notre intention ? Seigneur, dis-moi surtout ce que j'ai envie d'entendre. Seigneur, dévoile les profondeurs de mon cœur. Je n'ai pas envie de faire du surplace, Seigneur. Je sais que mon cœur est mauvais. Je sais que je ne fais pas toujours ce que tu veux, Seigneur. Alors si nous venons au Seigneur, c'est vraiment avec un cœur ouvert qu'on doit venir. Sonde-moi, Seigneur. Et nous ne voulons pas repartir avec ce qui pèse sur notre cœur. Et nous prenons le risque, quand nous venons au Seigneur, c'est vrai, mais c'est un bon risque, d'être confronté à notre péché, d'être confronté à une manière d'agir qui n'est pas bonne. C'est comme de se regarder devant la glace et de voir les cheveux blancs. Mais en tout cas, on ne peut pas aller devant la glace et puis dire « je ne veux pas voir ». On ne peut pas aller passer une radio et dire « Non, 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 mais regardez pas. » Non, si tu vas à une radio, c'est que tu es malade. Ou en tout cas, il y a quelque chose à vérifier. Et donc, c'est d'être transparent, vulnérable. Donc si nous venons au Seigneur, c'est vraiment avec ce cœur ouvert et pour recevoir de lui ce que lui voit avec ses yeux. Pas des yeux de jugement, mais des yeux qui nous apportent la vie. Ce que nous avons reçu au départ, la conviction de péché, c'est un cadeau de Dieu. La conviction que nous étions pécheurs, c'est un cadeau de Dieu, c'est une révélation de Dieu. Et derrière, le Seigneur a ouvert notre cœur pour que nous recevions sa justice accomplie en Jésus-Christ. Que nous recevions chaque jour cette même nature de vie que le premier jour où nous avons plié le genou devant notre péché, devant l'évidence, pour recevoir ce qu'il a de meilleur pour nous, au-delà de nos pensées scabreuses, limitées, etc. Alors nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Et j'avais reçu il y a quelques semaines, c'était curieux. Un instrument de musique. Alors le violon, j'ai pris cet exemple parce que j'aime beaucoup cet instrument. C'est vrai, mais il y en a d'autres. Un instrument de musique, quand il est tout seul, comme la guitare de Christelle, quand elle est là, à quoi elle sert ? Elle sert à rien. Un violon, elle peut être peut-être toute seule un bel instrument esthétique, une guitare aussi, d'autres instruments. Mais un instrument qui est tout seul dans son coin, il prend la poussière. Mais quand il est dans les mains de Dieu, pour jouer la mélodie de Dieu, c'est autre chose, non ? Alors soyons ces instruments entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier que le Seigneur travaille nos cœurs, que nous nous souvenions aussi que même une terre gravement polluée, rien n'est fini. Le Seigneur a prévu toujours une vie qui peut revenir, ça peut mettre le temps. Mais là où le Seigneur met la vie, c'est une vie qui est destinée à une abondance. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Oh, alléluia. Toi qui as ouvert nos yeux, Seigneur. Toi qui continues de vouloir parler à nos cœurs, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as envoyé ta parole, Seigneur, afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons restaurés, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les perfections de ton amour, Seigneur, de tes compassions pour nous, Seigneur. Ô Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Continue de faire ton œuvre, Seigneur. Là où nous nous sommes endurcis, Seigneur, viens rendre, Seigneur, notre cœur humble et doux, Seigneur. Sensible à ta voix, Seigneur. Sensible à ton écoute, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas demeurer dans l'état où nous étions, Seigneur. Mais continuer d'avancer avec toi, Seigneur. Recevoir cette bonne semence, Seigneur. Cette semence parfaite, Seigneur. Oui, Seigneur. Être aussi cet instrument entre tes mains qui se laisse faire, qui laisse le virtuose, oui, interpréter cette mélodie, Seigneur. Oui, Seigneur, viens continuer de changer nos cœurs. Viens continuer, Seigneur, dans ta bonté. Dans la bonté, Seigneur, pour chacun de nous et pour ce corps, Seigneur, de venir toucher en profondeur, Seigneur, ce qui a besoin d'être vivifié, ce qui a besoin d'être éclairé. Ô Seigneur, que ta fidélité est grande, Seigneur. Amen.